Et sinon, eh bien, on va prendre les questions. Vous n'aviez pas rapporté votre livret. Vous me repasserez, hein, parce que j'en ai pas 36 000. Vous l'avez à la maison. Non. Mais vous me repassez, hein. Un pour deux. Donc je veux deux qui reviennent. Hein. Alors, Psychologie Magazine. Liberté et don de soi. L'amour s'exprime dans la liberté et le don de soi. Cette liberté se réalise dans un choix de vie pour mieux se donner à l'autre. Est-ce que j'ose être moi-même ? Alors cette question a l'air stupide comme ça. Mais si je l'ai retenu, c'est que je l'estime un tout petit peu. Amour bien ordonné commence par soi-même. Vous devez vous estimer. Vous devez connaître vos qualités. Vous avez des défauts. Nous sommes tous faibles et pécheurs. Mais vous avez des qualités. Et ces qualités, il faut les saisir. Est-ce que je me sens libre du regard des autres ? Est-ce que vous avez une excessive impression de que vous deviez rendre des comptes aux autres? Est-ce que je me donne la permission d'avoir une vie intérieure personnelle? Vous voyez, dans votre emploi, vous n'allez pas arriver avec une croix de 15 cm. Mais si... Au visionnage de Jésus d'Andrette de Franco Zeffirelli, vous avez votre foi qui se rallume un peu plus. Et que vous commencez à dire, mais Jésus, c'est peut-être Dieu qui est venu sur terre. Alors, la petite croix ou des signes de votre foi deviendront des choses importantes. Et si votre conjoint, votre époux, votre épouse n'en est pas là ou... Il faudra vous respecter l'un l'autre. Est-ce que je communique tout à l'autre? Alors attention, hein. Moi je dis non. Mais pas un non absolu. Mais on ne dit pas tout à l'autre. Jésus nous a donné, la religion nous a donné l'occasion de nous ouvrir à des sages. Des prêtres, des hommes, des femmes, pour dire des choses qu'on ne va pas forcément dire à son époux ou son épouse. Un psychologue, ça dépend du remboursement, le psychiatre c'est remboursé, alors le psychanalyste c'est 80 euros la demi-heure. Hein. Et pour parler dans le vide, moi à votre place, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont des psychanalystes dans leur famille, donc j'arrête de tirer. Il peut y avoir des psychanalystes qui sont en fait des psychologues et qui vont vraiment aider ceux qui nous écoutent. Mais voyez-vous, vous pouvez avoir quelque chose qui est tellement intime que vous ne le dites pas, sauf à des personnes à qui vous le dites dans le secret absolu. Et votre époux et votre épouse, parfois, n'ont pas à porter une partie de votre passé. Pas nécessairement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez tout dire de tout ce qui vous est arrivé depuis que vous avez de la mémoire et de la conscience. Mais un couple n'est-il pas aussi pour le futur? Aimer l'autre demande de s'aimer soi-même. Et pour s'aimer, il est bon de savoir progressivement qui l'on est. Oui, mais l'introspection permanente, c'est ce qu'on vous demande de nos jours. Hein. C'est vraiment lourd, lourd. Allez. Quel est le sens de sa vie? Osons rechercher la vérité sur soi-même pour mieux aimer l'autre. Enfin, vous pouvez faire à un moment donné une conclusion et ne pas tout le temps revenir sur votre passé. Mais bon. Et quels sont les domaines qui me passionnent? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Vous voyez? Est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que vous aimez l'histoire? Est-ce que vous aimez la politique? Est-ce que vous aimez les objets, telle forme de choses, tel art? Est-ce que vous aimez avoir une belle maison? Est-ce que vous aimez ranger vos affaires? Est-ce que vous vous retrouvez dans le désordre? Est-ce que vous aimez l'ordre? Y a-t-il des aspirations profondes qui sommeillent en moi et que je n'ai pas pu développer? Des frustrations? Vous mettez parfois dans la poche avec un mouchoir dessus. J'ai toujours voulu être pilote de ligne. Ah oui, mais franchement, vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. J'ai voulu être énarque. Ah oui. Moi, je connais un monsieur qui avait 99 ans, qui avait raté son concours à l'ENA et qui en parlait encore. L'ambition à 99 ans, l'ambition déçue, c'est qu'il n'a pas dû vivre, enfin je sais pas, il y a quelque chose. Voyez. Est-ce que vous serez comme ça? Voyez. Être libre, libre de nos jalousies, libre de nos égoïsmes, le plus possible, libre de nos rancunes, voyez. Libre de nos frustrations, c'est pas la psychanalyse, excusez-moi, hein, j'assume. Vous avez un jeune homme de 18 ans qui pisse au lit. Ses parents, lui, sont embêtés, lui aussi. Un ultime traitement du médecin de famille, rien. Ils vont voir un professeur à Paris, rien. Ils vont voir un professeur aux États-Unis, rien. Ils font une chirurgie, rien. Il va voir un psychanalyste. Il pisse dès le soir même et il dit « Mais maintenant, je m'en fous. » Alors, voyez-vous, il y a quand même des surmoi qui sont importants. Et vous n'avez pas totalement à vous libérer de toutes vos frustrations si vous avez des envies délirantes. Y a-t-il des aspirations profondes qui sommeillent en moi et que je n'ai pas pu développer ? Tu ragages, parce que j'ai vu des films avec des acteurs anglais, mais c'est incroyable, la maîtrise, la galanterie et tout ça, et ils vous placent une balle entre les deux yeux, ils vous empoisonnaient quelqu'un, c'était extraordinaire, c'était des films bien faits avec de l'humour anglais. Vous voulez vraiment devenir un tueur à gages? Oui. Alors, exemple idiot, mais vous avez forcément des petites tristesses dans vos vies. Voyez. Suis-je heureux? Travail, loisirs, vie professionnelle. Comment se le manifeste-t-il? Mais vous êtes hilar, tout ça. Vous entrez dans un groupe charismatique. Et, alléluia, alléluia. Mais voyez-vous, c'est très divers la manière dont on manifeste son bonheur. Quelle est ma propre définition du bonheur? Pour moi, la définition du bonheur, c'est de ne pas faire de mal. Celui qui ne fait pas de mal est heureux. Vous voyez, c'est original hein, comme définition, hein, vous n'y attendiez pas. On devrait toujours être heureux à ne pas faire de mal aux autres et à soi-même. Il devrait y avoir une paix, pas forcément ressentie, mais comme ce qui tapisse le fond de l'océan. C'est paisible. Du moment qu'on n'est pas jaloux, égoïste, agressif, envieux, on devrait être heureux. Même si on est tétraplégique. Vous voyez, vous avez cet homme qui était tétraplégique et qui clignait des yeux sur un ordinateur et il dit à l'infirmière, je veux mourir. Et il était tombé sur une mystico-dingo catholique. Mais votre vie ne vous appartient pas, vous avez une femme et vos enfants, et tout ça, vous devez vivre et désirer vivre, tout ça, agonie de main, et l'autre, où suis-je tombé? Voilà, bon. Et bien finalement, ça lui a passé. Et il a fait un roman. Le papillon et le scaphandre. Le scaphandre et le papillon. Et on en a fait un film. Allez. Si Madame Lambert veut absolument que son mari meure, eh bien qu'elle divorce, à moins qu'il y ait un problème de succession. Mais qu'elle lui foute la paix, qu'elle laisse son mari à ses parents qui veulent absolument le faire vivre. D'autant plus qu'il n'a pas de soins. La dernière fois qu'on lui a coupé la nourriture et qu'on lui a donné que de l'eau à Vincent Lambert, sans un seul médicament, sans assistance réparatoire, il a vécu 28 jours. On lui a fait une diète de 28 jours avec de l'eau. Il ne mourrait pas, le gars. Il va crever, c'est pas possible. Ben non, il mourrait pas. Donc qu'on lui foute la paix, s'il n'y a pas de soins, s'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, mais qu'on le laisse dans à sa famille, qui trouvera un hôpital, une structure qui s'occupera de lui. Et puis voilà. Et vous avez une personne là qui... Combien d'exemples vous avez de personnes qui sont sorties du coma? Mais si vous voulez, l'être humain n'est pas appelé à tuer quelqu'un qui nous ennuie. L'acharnement thérapeutique est inhumain. Vous voyez, vous mettez des tuyaux partout, tout ça, une ventilation et tout, et la personne, elle a l'encéphalogramme plat, elle a plus aucune réaction, le cerveau est grillé, il y a plus de il y a des parties du cerveau qui sont nécrosées. On peut couper la machine respiratoire et le corps. Mais quand on n'a aucune machine et que la personne vit, ben foutez-lui la paix. Mais ça coûte cher. Ah, Jacques Attali. Moi, je suis un vrai socialiste. Et le socialisme, c'est la liberté. Et la première des libertés, c'est le suicide. Verbatim, hein, de Jacques Attali. Et lui, de dire, l'euthanasie sera un pilier de la société moderne. Oui, il n'a pas tort. Hein. En Chine, ils vont avoir tellement de vieillards d'avoir éliminé toutes les petites filles pendant des décennies. Ils ont un renversement démographique absolument impressionnant. Vous voyez, s'ils étaient 5 milliards, ils ne feraient pas pencher la planète. Ils auraient quelques mégapoles en plus. Mais il y a de l'espace en Chine, hein, je peux vous assurer. Et il y a de quoi cultiver, il y a de quoi manger. À avoir tué toutes les filles depuis des décennies. Ils se retrouvent avec des 120 garçons pour 100 filles. Ils vont dans les pays pour prendre des filles au Vietnam, ailleurs, à gauche, à droite, parce qu'ils n'en ont plus chez eux. Ils ne peuvent pas tous faire du macramé ou alors il faudrait une guerre. Il faudrait faire mourir des garçons pendant une guerre. Et voyez-vous, c'est ce... L'euthanasie, eux, comme ils sont un peu païens, les Chinois, le jour où il y aura trop de vieillards dans les maisons, dès qu'ils voudront plus manger, il n'y aura pas de problème. On déshydrate, vous tombez dans le coltard, et en 3 jours, c'est terminé. À l'euthanasie active dans les maisons de retraite, c'est simple. Oh, elle veut plus manger, la mamie! Eh ben c'est pas grave, oh, ça va pas, tout ça, on lui met de la morphine, c'est la seule eau qu'elle peut avoir. Et elle a la langue comme du bois, et elle meurt en 3 jours. Donc vous inquiétez pas, hein, dans les maisons de retraite, vous vivrez pas très très longtemps à 90 ans, si à l'époque, comme le veut dans le monde merveilleux de Jacques Attali, les vieillards seront éliminés, parce que trop vieux. Voyez, et inutile économiquement. C'est là qu'on regrette les villages où vous aviez le petit vieux près de la cheminée qui mourait à 60 ans, à 70 ans, quand vous aviez la vieille grand-mère qui était là à 90 ans dans l'âtre, qui avait résisté à toutes les grippes, toutes les pneumonies, tous les machins, un véritable phénomène de la nature. Eh bien, on lui parlait, on était content de l'avoir, quoi. Il n'y avait pas d'acharnement thérapeutique, mais on ne tuait pas, c'est des petits vieux. Et ils vivaient au milieu de nous. De nos jours, ce n'est pas évident. Hein. Quand vous avez des parents qui ont un Alzheimer ou des parents qui ont une démence sénile et qui veulent sortir de leur chambre toutes les 5 minutes et partir dans la rue, vous avez des enfants très très volontaires qui sont obligés de les mettre en maison. Mais voyez, c'est tout cela, ça sera aussi un projet de vie pour vous et avec vos parents. Donc, votre bonheur, qu'est-ce qui me fait vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donnera un sens à votre vie? Lors de quelles circonstances ai-je été le plus touché par la beauté ou la grandeur de la vie? C'est sûr qu'une naissance est très impressionnante. Quand vous avez l'état de New York, de Virginie et du Vermont, je crois, qui viennent de voter l'avortement jusqu'au dernier jour, je ne sais pas comment ils font. Parce qu'il faut tuer le bébé dans le ventre de la mère, que le poison ne tue pas la mère, je ne sais pas, ils l'étouffent, je ne sais pas, ils font... Voilà, et quand il est mort, césarienne, hein, parce qu'à 8 mois, 8 mois et demi, il va pas, ça ne va pas être simple. Hein. Ils viennent de voter l'avortement jusqu'au dernier jour à New York. Et c'est de la provoque un peu. Hein. Ils sont cool. Ils sont libéraux. Oui, c'est sûr. Lors de quelles circonstances ai-je été le plus touché par la beauté ou la grandeur de la vie? Qu'est-ce que j'aime en moi? Ça, c'est beau. Qu'est-ce que je n'aime pas en moi? Ai-je confiance en moi? Quels sont les domaines où j'ai le moins confiance en moi? Attention, vous n'allez plus vous marier, hein, si vous répondez à toutes ces questions. Quel effet le mariage aura-t-il sur ces problèmes? Pervers, narcissique, manipulateur. Comment est-ce que je me montre aux autres habituellement? Ai-je de vrais amis? Dans ma vie de célibataire, y a-t-il certains domaines dont il me semble important de me séparer? Mes parents et ma famille ont-ils eu une influence sur moi? Quelle relation ai-je avec ma mère, avec mon père? Là, franchement, je pourrais vous le développer, ça. Durant ma jeunesse, quel rôle ont-ils joué? Mais c'est effrayant. Je vais aller plus vite. Hein. Qu'est-ce qui me paraît le plus essentiel à garder, à développer? Y a-t-il des modèles de couple que j'aimerais imiter? En quoi? Suis-je à l'aise dans la famille de mon fiancé, ma belle famille? Ai-je le sentiment qu'il me faut épouser une famille entière? Est-ce que je souhaite couper tous les liens entre mon fiancé et sa famille? Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la famille de mon fiancé? Suis-je à l'aise avec les amis de mon fiancé? Je vais vous sortir des idées reçues. C'est les amis, les de sortie, tout ça. Non, c'est... les vrais amis. En général, des amis, on en a deux, un ou deux dans sa vie. Et des amis, un ami, c'est au sens très très noble du terme. Quoi. Des camarades, des copains, des connaissances, on en a. Mais des amis, alors est-ce qu'ils sont importants dans votre vie? Est-ce que, voilà. Quels sont les points qui m'empêchent d'être authentique?
Waouh!
D'être vrai. Suis-je prêt à vraiment respecter le jardin secret de mon fiancé? Est-ce que j'essaye de promouvoir la liberté de mon fiancé, de découvrir et d'épanouir ses talents? Ai-je pris conscience que je dois aider mon fiancé dans sa recherche, une vie intérieure et spirituelle tout au long de sa vie? Et que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu soit notre Père, que Jésus soit Dieu, qu'il soit notre frère aîné, ça devrait manquer à tout être humain. Dans notre couple, comment l'amour s'exprime-t-il? Sentiments, intentions, paroles, gestes? Il faut vous faire des cadeaux. Il faut... et très longtemps. Les attentions, c'est très longtemps. Très longtemps. Des cadeaux, votre propre présence, votre propreté, votre manière d'avoir soin de vous, d'avoir soin de l'autre. Ça, ce sont des choses importantes. Le fait de confier des enfants aux grands-parents et de manger ensemble longtemps. Voyez. Ça, c'est tout à fait possible. Suis-je prêt à renoncer à tel ou tel désir personnel pour le bien de mon conjoint ou de notre couple? Vie professionnelle, c'est plus difficile. Pour les enfants, pour accepter certains loisirs ou pour savoir s'arrêter pour les vacances. Que signifie pour nous de nous engager à vie? Avons-nous déjà eu l'occasion de nous engager? Sur quoi va reposer la force et le soutien de notre union? Ça, c'est très très général. Quels moyens humains et divins voulons-nous choisir? Connaissez-vous le Notre Père? Voyez. Connaissez-vous le Je vous salue Marie? Connaissez-vous le Je crois en Dieu? Connaissez-vous âme du Christ? Connaissez-vous Jésus? Hein? Jésus Nazareth de Franco Zeffirelli. J'ai pas d'action. Est-ce que je sais écouter? Pas moi. Excusez-moi, c'est pour ça que je ne me suis pas marié. Comment se manifeste cette écoute dans mon attitude? Je parle tout le temps. Et ma fiancée? Elle est muette. C'est l'église, donc c'est bon. Est-ce que l'un de nous parle trop? Au contraire, reste trop silencieux. Suis-je capable d'exprimer à ma fiancée mes sentiments? Peur, tendresse, colère? Y a-t-il des questions que j'ai peur de poser? Quand je rencontre un obstacle dans la communication, quelle est ma réaction? Je m'enfermer comme une huître. Voilà. Quels sont les sujets que je n'aborde pas volontairement avec mon fiancé? L'argent! Pourquoi? Quelle a été la dernière démarche de mon fiancé qui m'a aidé à me confier à lui? Y a-t-il des choses que mon fiancé est en droit de connaître sur moi pour être vrai dans ma relation? Si vous avez fait de la prison, si vous avez une maladie psychiatrique, si vous avez tué quelqu'un, si vous détestez votre sœur ou votre frère, il est bon de lui dire quand même. Si vous avez des problèmes dans votre famille, dites-lui. Vous savez, moi j'ai pas tout vu, je vais avoir 19 ans de sacerdoce, mais j'ai pas tout vu. Je vais pas me prendre pour le saint prêtre de 75 ans qui a tout vu et qui est poli comme un galet. Moi j'ai encore quelques aspérités, n'est-ce pas? Et donc, comme un silex. Eh bien, vous avez des familles parfois qui s'opposent à un mariage. Alors il faut être très attentif. Il faut le dire, ça. Il faut le dire au prêtre préparateur. Ah, mes parents ne sont pas là au mariage. Non. Voilà. Pourquoi? Oh, ils ont un repas quelque part. Eh bien, parfois, voyez-vous, cette opposition n'est pas rationnelle. Il y a vraiment, justement, des personnes très possessives. Une mère, un père. J'ai vu un père qui était très possessif. Ah, vache. Il ne voulait pas que sa fille se marie. C'était à la limite de la psychiatrie. Donc, finalement, ça s'est fait. Mais il emmenait tous les frères et sœurs contre le mariage. Mais il pleurait. Il pleurait. Vous avez un homme comme ça. Ah, oh, ma fille, elle va être malheureuse, elle va être un... Alors... Quand vous avez un père de famille qui est là et qui dit vous comprenez, c'est quelqu'un qui a son sixième emploi, qui parle de ses maîtresses précédentes, qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Oui, là, vos objections sont intéressantes, il ne m'en avait pas parlé. Le regard sur l'autre, j'ai un regard positif. Lorsque je l'écoute, est-ce que je cherche vraiment à comprendre ce qu'elle a voulu dire? Bon, c'est du Psychologie Magazine, mais c'est des phrases intéressantes. Suis-je capable de percevoir ce qu'elle me dit de vrai, même quand cela m'est désagréable? Ça, c'est la pure intelligence. C'est le bon sens. Et ça, on ne peut pas vous le donner. Ça s'acquiert avec le temps, l'expérience. Suis-je capable de me remettre en question? et de reconnaître vos torts. Ça, c'est vraiment indispensable à toute vie humaine, franchement. D'où la confession. Alors, oui, mais au 19e siècle, machin, ou avant-guerre, on se confessait, on ne savait pas quoi dire, c'était obligatoire, c'était barbant, c'était humiliant, c'était machin, c'était truc. C'est une volonté divine que la confession à un prêtre qui gardera le secret même dans un procès, n'en déplaise aux Australiens et aux autres officines qui veulent détruire l'Église catholique. Le secret de la confession est un lieu absolument incroyable. Vous pouvez tout dire et ça sera secret. Et vous serez conseillé, et puis de dire ce qu'on a fait, ce qu'on est à quelqu'un qui a un caractère transcendant, surnaturel, religieux, si vous voulez, c'est plus qu'un psychanalyste. Vous vous dites, alors, je viens pas du hasard, je suis pas un pigeon, je suis pas un moustique, et Dieu me voit, Dieu m'aime, et je vais dire franchement ce qui me pèse sur le cœur, ce que je suis. Alors si vous n'êtes pas un grand pécheur ou si vous n'avez pas de... Mais vous pouvez très bien aussi, vos manières de critiquer, d'être médisant, d'être méprisant, si vous en êtes bien assez conscient, vous pouvez vouloir que ce tempérament que vous avez à critiquer les autres, à vous moquer des autres, s'atténue avec le temps. Vous avez des personnes qui se confessent une fois par an, de pas de choses extraordinaires, mais qui sont du coup attentives à cause de ce sacrement en particulier sur leur vie. Et s'ils font quelque chose de grave à un moment donné, eh bien, ils vont pas attendre un an pour se confesser, pour aller voir un prêtre, pour lui parler. Vous voyez, quand les prêtres ont commencé à dire « on va tous au paradis, quoi que vous fassiez, vous êtes tous gentils et tout ça, voilà, oh, j'ai pas à vous confesser, de toute façon, on est tous sauvés, voilà. » Alors les gens, ils étaient là, ah oui, non, on se confesse plus, non, on se confesse plus, je vous bénis, voilà, confession collective, allez, on regrette tous nos péchés, on regrette tous nos péchés, que Dieu vous bénisse, allez, voilà. Mais ils sont jamais revenus. Parce qu'en plus, ils pouvaient même pas dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Et les prêtres ultra sympas comme ça, à un moment donné, avec le temps, ils en sont revenus. Ça, c'était les années 70, 80. Et là, je dis, mais je ne connais plus la vie de mes paroissiens, je ne connais plus la vie des gens. Comment je vais pouvoir... Si, venez me parler comme ça, cœur à cœur, tout ça. Oui, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire en face. Il y a des choses qu'on a envie de dire les yeux fermés. Comme une sorte de prière avec quelqu'un qui nous écoute. Et ça, voyez-vous, vous n'allez pas vous confesser les uns aux autres, mais reconnaître ses torts, c'est quelque chose d'une très grande vérité. Et qu'est-ce que ça libère? De ne pas mentir aussi. Voilà. Et quelle confiance s'installe dans un couple quand on ne ment pas? Et quand on admet, ben, j'ai pas fait. Mais pourquoi? Ben, j'ai été paresseux. Boum, bah voilà. Est-ce que j'estime bien connaître l'autre dans sa différence? Quels sont ses centres d'intérêt? Son caractère? Nerveux, bilieux, lymphatique? Quel est l'usage qu'il fait du tabac, de la vaporette, de l'alcool, de son attitude face au jeu? Bête clic. C'est bien appelé, hein, bête clic. De sa façon de dépenser de l'argent, de son humeur, de son sens de l'humour. Suis-je mal à l'aise face au comportement de mon fiancé en société, avec mes amis à la maison, avec ses amis, sa famille? Est-ce qu'il dépend trop de ses parents? Mon fiancé est-il en général satisfait de ce que la vie lui apporte? Ça, c'est vraiment général. Qu'est-ce que j'apprécie le plus en lui? Que m'apprend-il de plus grand? Équilibre, vision de la vie, relation aux autres. Qu'est-ce qui me fait souffrir en lui? Que m'est-il difficile d'accepter chez lui? Suis-je prêt à accepter mon fiancé? Que mon fiancé puisse évoluer, changer. Donc faites attention, si vous avez des opinions politiques totalement contraires, il faut vraiment que vous ayez un amour personnel. Oui. Avons-nous déjà vécu des conflits? Avons-nous eu tendance à les fuir, à nous affronter, à nous expliquer? Avons-nous eu l'occasion de nous dire réciproquement nos blessures dues à la réaction de l'autre? Avons-nous déjà pris le temps de nous pardonner et de prier? Ça doit faire tout drôle. Vous voyez? Quand on est baptisé, qu'on a fait éventuellement sa première communion à 8-10 ans, qu'on n'a jamais pratiqué et qu'on se retrouve à se dire quand même je vais me marier à l'église, quand est-ce que vous avez prié? Et à deux? Et quand vous allez à une messe un dimanche? Voyez. Alors nous on est très paresseux, bien qu'intégristes, j'arrive pas, si vous voulez, à vous dire tel dimanche, venez à la messe et voilà, on fera. Peut-être que à terme je le ferai parce que je suis trop surmené. Mais si vous voulez, dans l'ancien temps, on se posait pas la question. Tout le monde allait à la messe le dimanche. Donc actuellement, comment vous dire, mais à la messe c'est bien, il y a Jésus qui se donne et tout ça. Oui, mais attention, il faut que vous vous fassiez une bonne confession avant de communier. Ah oui, mais enfin, oui, voilà, s'il y a des exigences morales, Et alors, quand on a son fiancé ou sa fiancée qui ne sont pas baptisés, est-ce qu'ils nous accompagnent à la messe ou est-ce qu'ils veulent connaître notre religion? Est-ce qu'ils sont de culture chrétienne, d'ailleurs? Parce que le plus cocasse, c'est quand dans un couple qu'on prépare, vous avez celui qui n'est pas baptisé qui connaît mieux la région chrétienne que celui qui est baptisé. Mais voilà. Normalement, si vous êtes là ce soir, c'est pas parce que votre grand-mère vous demande de vous marier à l'église. C'est encore possible de nos jours. Mais c'est que vous-même, vous avez envie que Jésus et son Père vous accompagnent. Qu'il y ait quelque chose de plus dans votre vie que de vivre au jour le jour. C'est le mariage religieux. Avez-vous des questions? Ça fait une demi-heure qu'on a décroché, il n'y a même pas eu de pause. Bon. En tout cas, le couple vient quand déjà? Je vous pose la question toutes les deux minutes.
Le 16 mars.
Le 16 mars. Donc dans deux semaines. Dans deux semaines, vous faites tout pour être là. Ils sont très intéressants. C'est un couple de conseillers conjugaux, ce n'est pas. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, il faudrait que vous, pour le dossier administratif, vous commencez bien le contact avec le prêtre qui vous marie, avec la paroisse où vous vous mariez. Je veux que vous ayez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le mail. Vous voyez ? J'en veux un deuxième. Vous les avez à la maison ?
Oui.
Vous en avez pris. Très bien. Alors nous allons faire une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous savez quoi? L'année prochaine, il y aura, lors des préparations au mariage, il y aura la version de 2h30, ça passerait aux fiancés. Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli.